Chapitre 2. Il fit des rêves étranges. Il tombait tête la première dans un abîme sans fond. Dans son dernier songe, Toshio Nakamura et deux orientaux le soumettaient à un interrogatoire dans une petite pièce au mur blanc. À son réveil, Richard avait oublié où il était. Il écarta sa joue de la surface métallique verticale avant de se souvenir qu'il s'était endormi suspendu contre la paroi interne de l'habitat des aviens. Il utilisa sa torche pour regarder vers le bas et son cœur rata un battement. Le brouillard s'était dissipé et il découvrait dans les profondeurs une étendue d'eau importante. Il leva les yeux. 90 mètres devaient le séparer de l'entrée, car la corde en mesurait 100, et les flots étaient pratiquement 3 fois plus bas. Il se mit à trembler. Il désirait fuir, remonter et regagner le monde des humains. Non, se dit-il, pas encore, seulement s'il n'y a pas d'autre possibilité. Il avait faim, et il se dégagea en partie de la corde pour pouvoir prendre de la nourriture et de l'eau dans son sac. Puis il se tourna et braqua sa lampe vers le cœur de l'habitat. Il crut discerner des formes mouvantes dans le lointain, sans avoir toutefois la moindre certitude. C'est peut-être mon imagination. Lorsqu'il eut terminé son repas, il dressa la liste des possibilités. C'est très simple. Je peux revenir dans le Nouvel Éden, où on me jettera en prison, renoncer à la sécurité offerte par la corde et reprendre la descente en courant le risque de me rompre le cou, ou encore rester sur place en espérant qu'il se produira un miracle. Il se souvint qu'un avion était arrivé sitôt après que le prince Hal eut hurlé, et il imita le petit robot. Il s'égosilla pendant 2 ou 3 minutes, puis se mit à chanter. Il ne se tut qu'au bout d'une heure. Il ouvrait son sac pour prendre de l'eau, quand le monde clos s'illumina soudain. Sa surprise fut telle qu'il sursauta et glissa. Il resta suspendu à la corde quelques secondes. La clarté n'était pas éblouissante, comme lorsqu'il avait assisté du télésiège au lever de l'aube dans Rama 2, mais elle lui révélait cet univers miniature. La lumière était irradiée par une énorme sphère accrochée au plafond, environ 1000 mètres au-dessus de la structure la plus importante, un grand cylindre brun vertical. Un capuchon opaque recouvrait les 3/4 supérieurs de la boule et servait d'abat-jour. Ici, tout respectait le principe de la symétrie radiale. Au centre de l'habitat, à environ 4 kilomètres de Richard, se dressait l'étrange tour qui semblait faite de terre et devait mesurer 1500 mètres de haut. Il n'en voyait qu'un seul côté, mais la courbure laissait supposer que son diamètre avait entre 2 et 3 kilomètres. Il ne voyait ni fenêtre ni porte. Aucune lumière ne filtrait de l'intérieur. Le seul motif visible était un ensemble de lignes incurvées qui partaient du sommet et descendaient en spirale pour rejoindre le sol à l'aplomb de leur point d'origine. Le bas de cette construction se situait à la même hauteur que lui. Elle était entourée de 2 anneaux concentriques larges de 300 mètres. Leurs 2 quarts nord étaient semblables, avec dans chacun d'eux une 50aine de petits bâtiments blancs disposés selon le même plan. Les principes de symétrie en vigueur en ce lieu l'incitèrent à présumer que tout devait être identique du côté opposé. Un étroit canal circulaire aux berges séparées par 70 ou 80 mètres délimitait le périmètre de ce plateau. Au-delà, la pente était couverte par de la végétation, des excroissances pour la plupart verdâtres. Le sol, qui descendait régulièrement jusqu'à la douve de 400 mètres de large, creusée au pied de la paroi extérieure de l'habitat, était subdivisé en 4 secteurs que Richard baptisa, en fonction de leur équivalent terrestre, une jungle, une forêt, une prairie et un désert. Il consacra une bonne dizaine de minutes à admirer le panorama. Ce qu'il voyait était impressionnant, et il découvrait sans cesse de nouveaux détails. Des rivières et des lacs dans la région verte, 2 petites îles dans la douve, et des sortes de routes entre les constructions blanches. Naturellement, se dit-il, nous avons recréé une terre en miniature dans le Nouvel Éden. Les Aviens ont dû, eux aussi, tenter de reproduire leur planète natale. Ils avaient eu l'intime conviction que ces êtres n'étaient plus, s'ils l'avaient jamais été, les représentants d'une espèce spatio-pérégrine disposant d'une technologie avancée. Il prit ses jumelles et observa la tour brune. Quel secret peut-elle dissimuler ? Se demanda-t-il, enthousiasmé par la possibilité de vivre de grandes aventures et de faire d'importantes découvertes. Puis il scruta le ciel et fut désappointé de ne pas y voir un seul avion. Il crut entrevoir des créatures volantes à proximité du sommet du cylindre, mais ses points traversèrent si rapidement le champ de ses jumelles qu'il ne put avoir aucune certitude. Partout ailleurs, rien ne bougeait et n'indiquait que ce microcosme abritait de la vie. 4 heures plus tard, la sphère s'éteignit et Richard se retrouva dans le noir. Toujours suspendu contre la paroi verticale, il prit son thermomètre et consulta ses enregistrements. La température de 26 degrés centigrades n'avait pas varié d'un demi-degré depuis son arrivée. Le système de contrôle thermique est sacrément efficace. Mais pourquoi gaspille-t-il tant d'énergie pour assurer une telle précision? Il faisait nuit depuis des heures et son impatience croissait. Il devait reposer ses muscles en changeant régulièrement de position, et cela l'épuisait. Prendre une décision s'imposait. Descendre jusqu'à la douve sans bénéficier de la sécurité apportée par la corde serait trop téméraire. Et que ferais-je une fois au bord de l'eau? Admettons que je puisse traverser à la nage. Et après? Je devrais faire demi-tour si je ne trouve pas de quoi reconstituer mes réserves de nourriture. Il remonta vers l'entrée de ce monde. Il était à mi-hauteur de la sortie et prenait du repos lorsqu'il crut entendre un léger bruit loin sur la droite. Il prit le détecteur audio de son sac et en essayant de bouger le moins possible, il mit les écouteurs de l'appareil et monta le volume. Finalement, il capta un son dans la douve, loin en contrebas. Il ne put l'identifier. Peut-être les clapotis d'une embarcation. Mais il eut la certitude qu'il s'y passait quelque chose. Et n'était-ce pas un battement d'ailes qu'il captait sur la droite? Richard poussa un hurlement. Les bruits s'interrompirent, mais il les avait entendus distinctement pendant 1 ou 2 secondes. Il exultait.
« Je sais que vous êtes là »
cria-t-il.
« Je sais que vous m'observez !»
Il avait un plan. Ses chances de réussite seraient bien minces, mais c'était mieux que rien. Il s'assura qu'il disposait de provisions suffisantes et se dit « C'est maintenant ou jamais ». Il s'entraîna à descendre sans l'aide de la corde. C'était réalisable, bien que plus difficile. Arrivé au bas du filin, il se détacha et éclaira la muraille à l'aide de sa torche. Les prises seraient suffisantes, tout au moins jusqu'à la couche supérieure de la nappe de brouillard. Il reprit sa descente avec une extrême prudence. Sauf erreur, j'aurai sous peu de la compagnie, pensa-t-il au moment où il pénétrait dans la brume. L'humidité augmentait les difficultés. Il glissa et manqua tomber, mais il réussit à recouvrer son équilibre. Il s'arrêta dès qu'il trouva des corniches un peu plus larges. Il devait être à 50 mètres des flots. Je vais attendre de capter quelque chose. Ils devront se rapprocher pour me voir dans un pareil brouillard. Les battements d'ailes semblaient indiquer qu'il y avait 2 aviens. Richard resta sur place plus d'une heure, mais si la brume se dissipa, la sphère centrale ne s'illumina pas pour autant. Il reprit sa descente dans les ténèbres. Il n'était plus qu'à 10 mètres de la douve lorsqu'il entendit les êtres qui le surveillaient s'éloigner précipitamment. 2 minutes plus tard, le petit monde intérieur était nimbé de clarté. Il ne perdit pas un instant. Son plan était d'une extrême simplicité. Les bruits entendus dans la nuit laissaient supposer qu'il se passait quelque chose d'important, car autrement les Aviens n'auraient pas poursuivi leurs activités alors qu'ils pouvaient les entendre. S'ils avaient été un tant soit peu patients, ils seraient entre-temps ressortis de leur domaine. Richard avait l'intention de pénétrer dans la douve. Ils interviendront sans doute s'ils se sentent menacés. Et si rien ne se produit, il ne me restera qu'à remonter vers mon point de départ. Il retira ses chaussures et les glissa dans son sac étanche. Au moins ne serait-elle pas trempée pour une éventuelle escalade. Et dès qu'il mit le pied dans l'eau, il vit deux Aviens prendre leur essor dans la région verte de l'autre berge et fondre sur lui. Ils avaient un comportement frénétique. Ils piaillaient et donnaient l'impression de vouloir le déchiqueter avec leur serre. Heureux que son plan eût été couronné de succès, Richard ne fit aucun cas de ces tentatives d'intimidation. Les créatures le survolèrent et tentèrent de le repousser vers la paroi. Cependant, il continua de patauger et de les observer. Elles étaient légèrement différentes de leurs congénères de Rama 2. Elles avaient un corps duveteux, mais leur velours était purpurin et leur unique collier noir. Elles paraissaient en outre plus petites et nerveuses. L'une d'elles l'effleura avec ses serres. Sans doute estimait-elle qu'il ne reculait pas assez rapidement. Richard sortit de l'eau. Ses agresseurs ne durent pas juger cette preuve de bonne volonté suffisante, car ils se relayèrent pour remonter le long de la paroi afin de lui donner l'exemple. Comme l'homme ne bougeait pas, leur agitation crut encore.
« Je veux aller là-bas »
cria-t-il en désignant le cylindre. Chaque fois qu'il répétait ce geste, les Aviens jacassaient, puis remontaient vers l'entrée de leur monde. Richard commençait à redouter qu'il ne l'attaque quand il eut une idée. « Est-ce que je me souviens du nom de ce fichier ?» se demanda-t-il. « Il y a si longtemps. » Les deux êtres s'enfuirent dès qu'il plongea la main dans son sac.
« Vous venez de m'apporter la preuve que les faucheux sont vos éclaireurs !»
leur cria-t-il.
« Sinon, comment sauriez-vous que les humains ont des armes ?»
Il tapa 5 lettres sur le clavier, puis sourit en voyant ce qui apparaissait sur l'écran.
« Approchez !»
dit-il en faisant des signes aux créatures qui s'étaient éloignées vers la rive opposée.
« J'ai quelque chose à vous montrer !»
Il leva le moniteur. On pouvait voir sur l'écran le message graphique qu'il avait utilisé dans Rama 2 pour convaincre les Aviens de les transporter, lui et Nicole, sur l'autre berge de la mer cylindrique. C'était le dessin de 3 Aviens qui emportaient 2 humains au-dessus d'une vaste étendue d'eau. Les deux êtres approchèrent avec méfiance. « C'est parfait !» pensait Richard, qui ne pouvait plus contenir sa surexcitation. « Venez jeter un coup d'œil !»